par l'Inca. Et on a terminé avec le confrère Witt, le Frollo de Montpellier, affilié à Laylo, TBMA, mon pote, Loco. C'était le track. C'est produit par Witt lui-même et Splina. C'est toujours sur Radio Canus en 2.5, la plus rebelle des radios. Yeah.
Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, et vous l'avez reconnu à notre inévitable générique à las barricadas, c'est l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs, depuis longue date sur cette antenne de Radio Canus, tous les mercredis soirs de 20h à 21h, Idées Noires, l'émission du groupe local de l'Union Communiste Libertaire, l'UCL, une heure pendant laquelle on va décortiquer un petit peu l'actualité du point de vue des militants communistes libertaires et anarchistes que nous sommes. Une émission un peu à effectif réduit ce soir, puisque je suis seul à l'antenne pour cette reprise en 2025. Mais ne vous inquiétez pas, nos animateurs habituels reprendront du service certainement dès la semaine prochaine. En tout cas, ce soir, émission à effectif un peu réduit, ce qui veut dire qu'on accordera peut-être un peu plus de temps à des pauses musicales entre les sujets qu'on va aborder. Et puis, ça ne nous empêche pas, pour commencer cette année 2025, de vous souhaiter une bonne année. Une bonne année de lutte, une bonne année de contestation, une bonne année de solidarité pour ensemble tisser de nouvelles solidarités et pour pouvoir continuer à construire un autre futur plus solidaire, plus égalitaire et plus libertaire. C'est ce à quoi s'emploient les militantes et les militants de l'UCL tout au long de l'année, et bien évidemment malgré les temps qui sont durs, et ben on va continuer à se retrousser les manches, on baisse pas la tête pour autant, et on se dit que ça va bien finir par branler dans le manche et que les mauvais jours finiront et que il va falloir inverser la donne, et pour ça eh ben il faut s'y mettre tous et il faut continuer à construire ces contre-pouvoirs, ces espaces d'auto-organisation, et puis à alimenter un projet de société qui soit une alternative à la barbarie capitaliste. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025. En tout cas, nous on va s'y employer et on sera toujours là le mercredi soir de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu pour diffuser nos idées qui vont dans ce sens-là. Justement, si vous voulez rencontrer les militants et militantes de l'Union communiste libertaire, ça n'a pas changé. En 2025 comme en 2024, vous pouvez nous rencontrer à la librairie La Plume Noire, librairie libertaire autogérée par les militants et militantes de l'UCL. Gabriel sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est au 8 rue Diderot, à côté de la place Colbert. Et la librairie La Plume Noire, elle est ouverte tous les samedis après-midi de 15h à 19h. N'hésitez pas à passer pour nous rencontrer, pour y trouver de l'information militante, des tracts, brochures, livres, revues, etc., etc. Et ne serait-ce que pour partager un moment convivial et solidaire avec les militants présents. Ça, c'est le rendez-vous incontournable, ce rendez-vous du samedi après-midi à la librairie La Plume Noire, sauf bien évidemment rendez-vous de manifestation qui parfois oblige à décaler l'ouverture un peu plus tard après avoir battu le pavé. Et ça sera peut-être le cas ce samedi. Regardez les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux sur lesquels on annonce systématiquement s'il y a un décalage de l'ouverture, parce que dans les rendez-vous, on a justement deux manifestations à vous relayer pour ce samedi 11, pour ce samedi 11 janvier. Une manifestation qui aura lieu tout d'abord à Paris. Alors c'est vrai que la porte c'est pas à côté, mais c'est un sujet suffisamment important pour qu'on tenait à vous en parler. Puis Lucelle, elle sera largement mobilisée dans le bloc noir et rouge à cette occasion. Manifestation qui aura lieu à Paris pour défiler, pour être dans la rue avec la gauche kurde, pour la vérité, pour la justice et pour soutenir la révolution au Moyen-Orient. On en parlera un peu plus longuement dans cette émission. On reviendra sur cette manifestation qui fait écho à des attentats qui ont frappé au cœur de Paris des militants à trois reprises, des militants et militantes kurdes qui ont été brutalement assassinés en 2013 et 2022. Et cette mobilisation de début janvier, une façon de leur rendre hommage en même temps que de soutenir le mouvement kurde émancipateur qui se déroule au Moyen-Orient. Et donc c'est pour ça que ce samedi 11 décembre 2025, il y aura... 11 janvier 2025, il y aura une manifestation à 11h à Paris devant la gare du Nord qui donnera lieu à une marche jusqu'à la place de la République où aura ensuite un grand meeting en soutien avec la gauche kurde et la révolution au Moyen-Orient. On y revient au cours de cette émission, on vous en parle un peu plus. Et puis pour ceux qui restent sur la région lyonnaise, qui ne feront pas le déplacement pour cette manifestation à Paris, ce samedi, il y aura aussi une manifestation place Bellecour à 14h30 pour dire non au massacre en Palestine, une manifestation qui est à l'appel du collectif 69 de soutien à la Palestine parce que les massacres continuent et que il faut continuer à se mobiliser, et comme c'était régulièrement le cas en 2024, au moins un samedi sur deux il risque d'y avoir des rassemblements ou manifestations. Ça sera le cas ce samedi 11 janvier, donc 14h30 au départ de la place Bellecour, manifestation pour dire non au massacre en Palestine, parce qu'on sait que cette année 2025, elle commence après plus de 450 jours de massacres qui ont vu tomber près de 46 000 Palestiniens et Palestiniennes, qui ont vu plus de 100 000 d'entre eux être blessés, essentiellement des femmes et des enfants pour la plupart du temps. Et tout ça, depuis, c'est suite à l'agression israélienne qui a démarré suite aux événements du 7 octobre 2023. Cette agression israélienne, elle se poursuit aujourd'hui à travers les bombardements de Gaza. La bande de Gaza qui est devenue une véritable prison à ciel ouvert, on ne le rappellera jamais assez, et on sait que l'aide humanitaire est volontairement entravée, que les enfants meurent de faim et de froid dans ce secteur, sur ce territoire-là. Malgré le fait que la justice internationale s'est prononcée déjà voilà bientôt un an sur ces événements, puisque le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice, la CIJ, a rendu une décision qui demandait à Israël d'empêcher d'éventuels actes de génocide et de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Et que malgré les décisions de cette Cour internationale de justice, qui sont contraignantes et sans appel, normalement, il incombe aux États de les mettre en œuvre. Israël n'en a en aucun cas tenu compte. Ce qui a amené le 21 novembre dernier, le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de Yoav Galan pour crimes contre l'humanité et crimes crimes de guerre. Du côté de chez nous, le gouvernement Macron-Bayrou, par exemple, a décidé tout simplement d'ignorer ses mandats. On voit que le droit international, mais au-delà de ça, le droit humanitaire est tout simplement bafoué et piétiné. Le droit international, on vient de le voir. Le droit humanitaire, il y en a de nombreux exemples. On peut citer le cas de la destruction de l'hôpital Kamal Adwan, avec l'évacuation forcée des malades, l'arrestation de son directeur, qui a poussé l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à déclarer samedi dernier, samedi 4 janvier, que, pour citer l'OMS, la dislocation systématique du système sanitaire dans la bande de Gaza par les forces israéliennes est une forme de condamnation à la peine capitale pour des dizaines de milliers de Palestiniens ayant besoin d'assistance médicale. C'est quand même un message qui est très clair, qui est diffusé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors on peut se demander jusqu'à quand ces massacres iront-ils lieu, parce que menacé par des procès dans son pays, le crime minister Netanyahou délaisse la question des otages et veut poursuivre sans fin la guerre à Gaza, la colonisation meurtrière en Cisjordanie au sud Liban, mais aussi en Syrie, pour poursuivre sans fin tout simplement son objectif suprémaciste de colonisation. On peut se demander comment, du coup, dans ce contexte, arrêter Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, alors que les États-Unis les soutiennent en posant leur veto à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU, et en accordant, par exemple, cette semaine, 8 milliards de dollars d'armement pour Israël, bien évidemment payé par l'État des États-Unis, par les caisses fédérales, pour le plus grand bénéfice du lobby militaro-industriel. Mais derrière les États-Unis, l'Europe, elle joue aussi un trouble rôle, puisque juste après les États-Unis, c'est l'Union européenne qui est le plus grand soutien d'Israël, car elle est son premier partenaire commercial. Et c'est pourquoi il faut rappeler, il faut soutenir toutes les actions de participation à la campagne pour la suspension de l'accord d'association d'Union européenne-Israël et les campagnes de boycott des produits israéliens, la fameuse campagne BDS qui boycotte les produits israéliens, mais aussi les entreprises européennes et particulièrement françaises qui collaborent avec Israël. La France, elle doit s'engager pour cela, donc en finir avec cette complicité criminelle, et les partis politiques français présents au Parlement européen devraient s'engager eux avec force dans cette voie-là, mais on sait bien évidemment qu'on n'a jamais pu compter sur les soi-disant élus à qui un chèque en blanc a été accordé lors de ces élections représentatives. En tout cas, dans tous les pays, on voit que depuis déjà des mois, de puissantes manifestations populaires continuent à avoir lieu, notamment pour réclamer qu'un cessez-le-feu vienne stopper ces massacres. Et c'est pour ça que à Lyon aussi, il faut briser ce silence de mort qui entoure ce qui se déroule dans la bande de Gaza et plus généralement sur la Palestine, et qu'il faut continuer à battre le pavé pour continuer à réclamer la fin du génocide, le cessez-le-feu immédiat et permanent pour Gaza, l'accès libre à l'aide humanitaire à Gaza, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, l'arrêt de la livraison d'armes à Israël et de la coopération Europe-Israël. Réclamer qu'il y ait un stop qui soit mis à la violence des colons et à l'annexion en Cisjordanie, un stop qui soit mis à l'expansionnisme israélien et des sanctions contre cet État génocidaire, en arrêtant notamment les criminels de guerre qui ont été condamnés par la Cour internationale. Et c'est ces mots d'ordre qu'il faudra faire entendre et résonner dans les rues de Lyon, on vous le rappelle, ce samedi 11 janvier 2025 à 14h30. Place Bellecour pour le départ de cette manifestation. Allez, soutiens la Palestine. C'est l'excellente occasion de commencer cette émission en retrouvant notre ami Fermin Meguroza et son fameux Yalla Ramallah sur ce 102.2 de Radio Canu dans cette émission Il est noir. Mame tal duro, me arengue fiti, y a mal ni de adiña.
aldera eraiki Baiet beste muru bat erori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare Yala, yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Ha, jenden ahoroitu Zotola ematean Zumardi handiak irekiko dira Hortik pasatzeko gizaki askeha Pasotzeko gizarte hobe bat Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Ha, kasaba zineman Budialenen filma Melinda, Melinda Paradise Horain da Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala, yala ramala
Palestina naiz
Yala, yala, yala ramala
Esa nunta itzuli naiz
Yala, yala, yala ramala
Balkuntza maizu naiz
Yala, yala, yala ramala
Olibongo atzuntza
نمشو في رمالة يلا نمشي ونزوروا في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا,
يلا
رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا
Yala Ramala, Fermin Muguruza, Fermin Muguruza sur ce 102.2 de Radio Canu dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Fermin Muguruza en solidarité avec la Palestine, cet activiste basque qui a été notamment dans ceux qui ont fait bouclier humain à la Mokata, à Ramala justement, à l'époque où Yasser Arafat était encerclé par les chars israéliens. Fermin Muguruza qui a soutenu de nombreuses causes et notamment la cause palestinienne. Fermin Muguruza d'ailleurs, au passage, cet activiste basque, membre historique de Cortatu, de Ngogoriak, et qui a poursuivi sa carrière solo, qui a lancé en ce mois de décembre 2024 une tournée mondiale pour fêter ses 40 ans de carrière. Ses 40 ans de carrière, ça commence maintenant à faire un sacré temps que Fermin Muguruza arpente les planches 1984-2024. 40 ans à travers ces différents groupes. Une tournée mondiale qui a commencé à Bilbao en décembre et qui s'achèvera à Pamplune, toujours au Pays Basque, en Euskadi, au mois de décembre prochain, et qui va passer pas très loin de chez nous, en tout cas de toute façon tout à fait joignable, puisqu'il sera en concert le 21 mars prochain à l'Élysée Montmartre à Paris, et puis plus proche encore, le 29 mars à l'Espace Julien à Marseille. Voilà, pour tous ceux qui veulent aller voir Fermin Muguruza Rosa et participer à ces concerts qui sont un grand moment de fête mais aussi de lutte en soutien à de nombreuses causes comme celle de la Palestine et plus journalement toutes les causes émancipatrices, féministes et antifascistes qu'on peut croiser à travers le monde. On va poursuivre dans cette émission de l'Union communiste libertaire avec un petit point sur l'actualité, parce que l'actualité, c'est quand même ce cadeau qui nous a été fait en ce début d'année, hier, le mardi 7 janvier 2025, si on commémorait les 10 ans de la tragédie des attentats de Charlie Hebdo, bah, comme le titre si bien Charlie Hebdo aujourd'hui, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un cadeau, c'est-à-dire que cette vieille crevure fasciste de Jean-Marie Le Pen casse enfin sa pipe, bien trop tard, bien évidemment. On imagine que les Algériens tombés entre ses mains auraient préféré qu'il disparaisse bien plus tôt et éviter de croiser sa route. Mais néanmoins, on peut quand même que se réjouir de voir disparaître ce triste personnage pour lequel on n'a jamais eu la moindre sympathie, bien au contraire, dont ses idées et son parcours nous a toujours donné à vomir et exprime ce qu'on a toujours rejeté et ce contre quoi on s'est battu et on continuera à se battre. On peut simplement regretter que, bien évidemment, Jean-Marie Le Pen dégage de là à un moment où, malheureusement, ses idées politiques n'ont jamais été aussi proches du pouvoir et qu'elles continuent à être incarnées aussi bien par son parti qui, bien que relooké par sa fille et respectabilisé dans le discours et dans l'apparence, continue à entretenir et vit sur les mêmes fonds nauséabonds. Et puis, bien sûr, par de nombreux groupuscules divers et variés qui reprennent l'héritage de ce fascisme, en allant jusqu'à sa petite fille Marion Maréchal Le Pen, qui a affirmé dès sa disparition, elle alliée de Zemmour, qu'elle continuerait le combat de son grand-père et qu'elle continuerait à faire vivre ses idées. On rappellera que Le Pen, ça a toujours été un fasciste. C'est celui qui a su, qui est le premier, qui a réhabilité l'antisémitisme de manière publique depuis la Seconde Guerre mondiale, au début des années 70, en créant le Front National, parti politique qu'il a d'ailleurs fondé en compagnie d'un ancien Waffen-SS, donc un pur nazi, et que Le Pen s'est toujours illustré par ses positions antisémites, racistes et fasciste. On connaît ces dérapages voulus et expressément mis en scène de Durafour crématoire aux chambres à gaz, qui sont des détails de l'histoire, qui ont ouvert la porte à justifier les idéologies négationnistes qui ont visé à remettre en cause les conséquences du génocide juif et de la Shoah. On connaît malheureusement les tristes méfaits des gros bras qui ont tourné autour des services d'ordre du Front National, tel ce jeune arabe jeté à la Seine par des skinheads en marge d'un défilé du Front National à l'occasion d'un 1er mai. Et puis, bien sûr, Jean-Marie Le Pen, ça a aussi été un tortionnaire, un nostalgique du colonialisme et des guerres coloniales françaises, et un tortionnaire durant la guerre d'Algérie. Et pour toutes ces raisons-là, on ne pouvait que se réjouir de voir disparaître cette crevure fasciste qui incarne un pan de l'histoire qui nous a toujours fait vomir et qui, contrairement à ce que le gouvernement s'est permis de dire, n'est pas simplement un homme politique français, mais bien une expression de la bête immonde. On voudrait justement, pour montrer toute l'expression de la bête immonde et tout le dégoût que nous inspire Jean-Marie Le Pen, partager cette analyse et ces quelques lignes qui ont été écrites par le site Street Press, média indépendant et média en ligne, qui continue sans cesse à faire une vigilance contre les résurgences de la peste brune et le développement du fascisme, et qui a écrit un très bel édito aujourd'hui sur le thème « Le combat continue », en nous rappelant que Jean-Marie Le Pen est mort et que, en guise d'hommage, Jordan Bardella rappelle ses engagements sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie. Parce que oui, Le Pen fut un soldat de l'armée coloniale. En Indochine, il faut rappeler qu'il est arrivé après la bataille, littéralement, puisqu'il atterrit quelques semaines après Dien Bien Phu en 1954. Et en Algérie, c'est cette fois son heure de gloire. Il a fait 6 mois chez les paras en 1957, en pleine bataille d'Alger, et que là-bas, Le Pen a torturé. Il est de notre devoir de le rappeler et de faire que ça ne s'efface pas, et que sa mort ne fasse pas qu'il y ait une certaine respectabilité de ce tortionnaire, parce que si un jour nous devons en rendre un hommage, c'est certainement pas à Le Pen, mais c'est par exemple à Ahmed Moulay, qui a été torturé capturé et tué le 3 mars 1957, sous les yeux de ses enfants, par une patrouille qui était tout simplement conduite par le lieutenant Jean-Marie Le Pen. Sur place, ce qui ne l'a prouvé, il a oublié un poignard. Ce poignard, il n'est pas neutre, c'était le poignard des jeunesses hitlériennes. Et sur le fourreau de ce poignard était inscrit en lettres capitales, tout simplement, son nom, J.M. Le Pen, 1er RP, régiment de parachutistes. Tout est dit quand on voit ça. Il n'aura jamais un mot de regret pour les exactions qu'il a commises. Et jusqu'au bout, il évoquera avec nostalgie, d'ailleurs, l'Algérie française. C'est donc notre devoir à tous de rappeler cette histoire, comme c'est notre devoir aussi de détailler l'héritage qu'il laisse aujourd'hui, parce que tout au long de sa vie, comme on le disait, Jean-Marie Le Pen a rassemblé toutes les radicalités nationalistes et a plus qu'aucun autre structuré cette famille politique qui est celle de l'extrême droite et du fascisme qui malheureusement est désormais aux portes du pouvoir. Et hier sur les réseaux sociaux, chacun y allait de son petit mot, les vieux grognards comme les jeunes loups, toutes tendances confondues de cette peste brune, que ce soit les monarchistes, les identitaires, les néo-fascistes ou les catholiques intégristes, qui ont à tour de rôle rendu hommage à celui qui a pourtant pendant 39 ans dirigé le Front National, qui a été une maison commune de toutes les familles d'extrême droite, qui a été leur maison, leur centre de regroupement. Et aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est mort, c'est sûr, et on s'en réjouit, mais ses idées sont que trop vivantes, alors comme on le disait et comme le dit si bien Street Press, pour nous, le combat continue, et bien évidemment, que ça soit Street Press ou ça soit les militants de l'Union communiste libertaire, on continuera à être en première ligne, à lutter contre la peste brune et à lutter contre la bête immonde.
De toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National.
Allez, levez les doigts, levez les doigts, tous les doigts. Alors,
jeunesse emmerde tout le Front National, la jeunesse emmerde tous les nazis. C'est ce que les Bérus chantaient en 1989. Et ben, en 2025, la jeunesse, mais la vieillesse aussi et encore emmerde le Front National et tous les nazis. C'est ce qu'on se sentait obligé de passer et de rappeler sur ce 102.2 de Radio Canu dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire. Parce que c'est toujours aussi vrai, même si malheureusement, le plus jamais 20% aux élections est bien loin derrière nous, que le Rassemblement National relooké de sa fille, des Le Pen encore, de la famille Le Pen, a doublé son score. Mais on sera toujours là pour les emmerder, jeunes ou vieux, et pour tenter de faire que la petit monde n'accède jamais au pouvoir et n'installe jamais son funeste projet de société. Voilà, c'est ce qu'on tenait à rappeler, dans cette émission Idées Noires, à l'imitant de celle-ci, à 20h30 passée sur ce 102.2 de Radio Canu. L'actualité de cette fin d'année 2024 et de ce début d'année 2025, c'est aussi ce qui est les dramatiques événements qui ont eu lieu à Mayotte et la situation désastreuse dans laquelle continue à se débattre une partie de la population, puisque le cyclone qui s'est abattu sur Mayotte est un véritable désastre humain, mais un désastre humain qui n'est pas sans responsabilité, qui derrière a une véritable responsabilité coloniale. Et on avait envie de revenir un petit peu sur cet événement-là, de rappeler que le 14 décembre dernier, donc le cyclone Chido a atteint l'archipel de Mayotte avec des rafales de vent de plus de 220 km/h, qui étaient du jamais vu depuis plus de 90 ans, et que depuis, l'île connaît une véritable catastrophe humanitaire sans précédent. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de morts plusieurs centaines en tout cas de morts qui ont été recensées malgré une absence de bilan jusqu'à présent. On sait qu'une personne sur trois est désormais sans abri et que les habitants se retrouvent sans eau, sans nourriture, sans accès aux soins et puis coupés du monde puisque jusqu'ici les appels avaient du mal à fonctionner. Ou devait passer par la préfecture et que les moyens qui ont été déployés par l'État français n'ont pas du tout été à la hauteur et ont été très lents à arriver et trahissent finalement une responsabilité qui est bien plus grande que ces simples dysfonctionnements. Parce que d'une façon assez classique, avec les colonies françaises, le problème il est géré par des ministres de l'Intérieur, dans la pure continuité des administrations coloniales qui étaient précédemment gérées par l'armée, et que malgré la catastrophe, le Premier ministre a quitté la conférence de presse sur la question, laissant Retailleau répondre aux questions, alors même que l'Outre-mer est le portefeuille du Premier ministre dans le gouvernement de Barnier, encore en fonctionnement à l'époque. On s'est rendu compte que la première réponse, ça a été une réponse sécuritaire et raciste, puisque rapidement, des accusations en pillage ont été lancées par divers élus, et alors même que la priorité devrait être donnée aux secours et à leurs besoins pour aider au mieux les populations, ce sont les services de police et les syndicats d'extrême droite Alliance qui a pris la parole en agitant la menace de pillage, puis en accusant les migrants du potentiel bilan humain. On voit que la position de Retailleau a été claire. Le problème est un problème d'immigration qu'il faut régler au plus vite avec les forces de répression, la mise en place d'un couvre-feu, l'envoi de militaires, etc. Et on peut s'attendre à ce que, comme en Louisiane, la priorité soit donnée au sauvetage des personnes blanches et des personnes aisées. Comme annoncé à plusieurs reprises, la préoccupation de l'État sera l'ordre. Et ce, avant les blessés, avant les morts, avant les risques d'épidémie, avant les sans-abri, avant le manque d'eau et de nourriture, par exemple, ce qui est tout bonnement inhumain et inqualifiable. On sait pourtant que ce qui s'est passé à Mayotte, c'est pas un hasard et que c'est à prévoir. Ça s'inscrit dans un contexte mondial d'intensification des catastrophes naturelles, puisque le GIEC et les militants écologistes alternent depuis des décennies sur le fait que le dérèglement climatique va amener des catastrophes de plus en plus extrêmes et dévastatrices. On savait que le jour où Mayotte serait frappée par un cyclone, ça sera un massacre. Et même si les cyclones passent généralement sur Madagascar ou au Mozambique et épargnent Mayotte, bah, visiblement, l'ampleur de celui-ci n'a pas été anticipée par les autorités françaises et les habitants et habitantes n'ont pas été mis à l'abri suffisamment tôt. Tout ça à cause d'une pauvreté structurelle, qui est la conséquence des politiques coloniales. Parce qu'on peut se demander de comment parler de cette catastrophe humanitaire sans parler de la situation de Mayotte, qui explique l'ampleur du désastre que l'on tarde à découvrir. On sait que la situation de Mayotte, elle est liée à la déstabilisation de la région suite à l'arrachement de l'île au reste des Comores lors du référendum illégal de 1976 et au traçage de frontières françaises en plein milieu de l'océan Indien, que l'ingérence française dans cette zone du monde, elle a entraîné une immigration structurelle, que des milliers de personnes viennent s'entasser dans les bidonvilles de l'archipel pour espérer une vie meilleure, et que les personnes sans papier sont parmi les premières victimes du cyclone du fait de leur habitat de fortune et de leur peur de rejoindre les abris ou d'aller se faire soigner depuis que l'île est devenue une zone de contrôle géante où ont lieu 60% des OQTF annuels et où les contrôles d'identité peuvent avoir lieu partout, qui est une énième exception juridique coloniale. On estime notamment qu'une personne sur trois à Mayotte vit dans un bidonville ou en tout cas dans un habitat informel. Et par exemple, l'opération Wambushu, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui a été menée au début de l'année 2023, n'a eu d'autre effet que de renforcer leur situation précaire, notamment à travers la destruction de plusieurs centaines de maisons en deux mois avec l'aide et l'appui de l'armée. Alors, les médias ont annoncé que 70% des services de la maternité, par exemple, ont été interrompus depuis le passage du cyclone. Mais il ne faut pas oublier de s'indigner que l'Agence régionale de santé de Mayotte cherche depuis 2023 à maîtriser la natalité à Mayotte et qu'elle a annoncé que des stérilisations via la pratique de ligature des trompes avaient été mises en place systématiquement, en tout cas étaient proposées systématiquement aux jeunes mères mahoraises et comoriennes qui venaient accoucher au centre hospitalier de Mayotte. Où on peut aussi citer par exemple le fait que les femmes n'accèdent plus aux soins, même enceintes, par peur d'être expulsées, ou que l'aide médicale d'État n'existe plus dans ce département et que du coup la mortalité infantile elle est près de 3 fois plus élevée qu'en métropole, que tous les services sont en sous-effectif avec un manque de moyens criminels et que au final c'est 77% des habitants de l'île qui vivent sous le seuil de pauvreté, que les services publics sont saturés, que l'archipel connaît une crise de l'eau depuis 2017 et que l'État ne cherche pas à régler, comme c'est par ailleurs le cas en Guadeloupe, ce problème-là. On sait aussi que la fabrique juridique de sans-papiers, elle fait tout simplement des morts depuis des années. On estime entre 7 000 et 10 000 personnes le nombre de personnes qui sont mortes en mer depuis l'instauration du visa Balladur en 1995. Et puis, au-delà de tout ça, dans ce contexte global, on peut que penser aux victimes du cyclone, aux familles en deuil ou qui parviennent pas à contacter leurs proches, aux personnes qui ont vu leur maison détruite et leur vie bouleversée. Et après la sidération qui a été celle de milliers de personnes, au fur et à mesure que les informations sont arrivées en métropole, on a eu une certitude qui s'est établie, c'est que le drame humain dans lequel le colonialisme français plonge les Mahorais et les Comoriens doit définitivement prendre fin et que d'autres moyens, un autre avenir et d'autres conditions doivent être offerts aux populations de ces îles qui puissent de manière autonome pouvoir décider de leur destin. C'est ce qu'on voulait rappeler à l'occasion de ce dramatique événement qui a eu lieu à Mayotte et qui met en lumière ces territoires dits ultramarins français, ces territoires de la République d'outre-mer qui sont des restants de l'Empire colonial. Ce qui s'est passé à Mayotte pourrait aussi avoir lieu aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique. Et c'est justement l'occasion de retrouver Kazay qui raconte ce qui se passe chez elle dans ce très beau morceau qui s'appelle « Chez moi, Kazay ».
Le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. connais-tu le morne et la ravine? Le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes tous seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine? Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum? La tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements? Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Sur 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, avec ce morceau Chez moi qui faisait le point sur qui éclairait de drôle de façon la situation qui peut y avoir dans ces territoires colonisés, de ces territoires ultramarins de l'État français, qu'on a mis en lumière à travers le drame humain qui a pu y avoir suite au passage du cyclone à Mayotte. L'actualité sociale en métropole cette fois-ci, sur lequel on veut revenir aussi, c'est aussi la vague de licenciements qui a été annoncée en cette fin d'année 2024, sur lequel on est déjà revenu, mais dont on voudrait dire quelques mots, puisque plusieurs organisations, une dizaine d'organisations politiques, dont notre organisation, l'Union communiste libertaire, se sont réunies à la fin de l'année 2024 pour discuter de l'urgence à réagir à cette vague sans précédent de licenciements qui est annoncée, pour échanger nos analyses et puis pour discuter des initiatives communes qui pourraient être prises, et que ces organisations ont décidé de se retrouver de nouveau demain, le 9 janvier, pour continuer la mobilisation, pour poursuivre ces réflexions et cette préoccupation et ces mobilisations, parce qu'on le sait que depuis déjà plusieurs mois, les annonces de licenciements et de suppression d'emplois dans le privé ou de postes dans la fonction publique s'enchaînent, et que de nombreux secteurs sont touchés. C'est l'automobile en premier lieu, mais c'est aussi la chimie, c'est la grande distribution, l'exemple de Casino dans la région est là pour nous le montrer, c'est la métallurgie, mais c'est aussi les 4000 suppressions de postes qui étaient annoncées par le gouvernement Barnier dans l'éducation nationale, et puis ceux dans la culture, la santé, les collectivités territoriales. Au total, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés, et la première chose qui est importante, c'est déjà d'affirmer notre solidarité avec les salariés dont les emplois sont menacés, et d'appeler à construire des cadres unitaires localement pour les soutenir dans leur lutte, aux côtés des organisations syndicales qui sont bien sûr mobilisées sur le terrain. Et ça, c'est la première des réactions. Et puis au-delà de ça, c'est mettre en avant certaines revendications, comme le fait de partager, par exemple, l'idée qu'il faut stopper cette vague de licenciements, que ce soit par exemple un moratoire, comme le propose la CGT, ou par tout simplement l'interdiction des licenciements, au moins pour les entreprises qui en plus font des profits. En tout cas, dans tous les cas, il faut garantir la sécurité d'un point de vue humain et social pour toutes et tous. Il faut maintenir des emplois partout. Il faut garantir les salaires et prendre le temps de construire des projets de reconversion dans le cadre de la nécessaire transition écologique aussi, qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment. C'est pas maintenir des emplois pour maintenir des emplois inutiles ou tels ceux de l'armement ou dangereux tels les emplois du nucléaire doivent être remis en cause et questionnés, mais doivent proposer des reconversions pour leurs salariés. Et pour toutes ces mesures, il faut se poser les questions de savoir quelle initiative il peut être pris, celle d'organiser des meetings pour donner la parole aux salariés, des concerts de soutien pour aussi alimenter les caisses de grève qui permettent de soutenir les salariés mobilisés pour la défense de leur emploi, organiser des marches nationales contre les licenciements, comme ça avait été fait contre le chômage dans les années 90, par exemple, à l'initiative d'AC d'agir contre le chômage. Et en tout cas, il faut exclure aucun type d'initiative et dans tous les cas, avoir le souci de faire le lien entre les organisations syndicales et les salariés mobilisés pour faire face à cette situation d'urgence sociale à laquelle nous sommes confrontés, parce qu'on est véritablement dans une situation d'urgence sociale, mais aussi de crise économique, écologique et politique. Et on doit aider à la convergence des combats face à la casse sociale et soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent, qu'ils soient salariés ou privés d'emploi. Il faut se battre pour le droit à l'emploi et aux revenus, pour l'abrogation des réformes de l'assurance chômage et bien sûr des retraites, parce qu'on sait que le Rassemblement national, il est en embuscade dans une situation d'instabilité politique forte et où la précarisation du quotidien pousse chaque jour un peu plus de travailleurs et de travailleuses dans ses bras, et qu'on a donc une responsabilité pour reconstruire la confiance de notre force collective et lutter contre la division de notre camp social qui est grignoté par l'extrême droite, qui est aux aguets, et on doit être capable de proposer un autre futur que le funeste avenir que nous prépare l'extrême droite. Et c'est pour ça que on peut qu'appeler à la poursuite d'un travail unitaire, syndical et politique, autour de ces mobilisations, de ces salariés qui luttent contre les licenciements, qui accroissent la misère et la précarité chaque jour un peu plus. Et bien sûr, on le sait, qui sont tout simplement le fait des patrons et du patronat.
patron, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on est flingues citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de là. Oui, on est flingues citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, et tu réfères et mère pour une poignée de billets verts.
Les patrons, c'est comme les cochons, nous chantent les Sales Majestés sur 102.2 de Radio Canu dans cette émission, la bande-son de nos révoltes, dans cette émission Idées Noires qui précède la bande-son de nos révoltes dans laquelle je vous retrouverai juste après notre générique parce qu'il nous reste encore une dizaine de minutes dans cette émission Idées Noires et on vous en avait parlé en début d'émission, on vous avait dit que dans les rendez-vous du week-end il y avait cette marche avec la gauche kurde, cette marche pour la vérité, la justice et la révolution au Moyen-Orient qui est organisée ce samedi 11 janvier 2025 à 11h devant la gare du Nord en direction de la place de la République aura un grand meeting parce que comme chaque année l'Union communiste libertaire est présente dans la rue aux côtés des organisations de la diaspora kurde pour cette grande manifestation anti-impérialiste et anti-colonialiste et en commémoration des militants kurdes qui ont été assassinés sur notre territoire. Cette année c'est d'autant plus important que dans le contexte où la dictature de Bachar al-Assad s'est effondrée, la Syrie est toujours bombardée par Israël d'un côté et puis par la Turquie de l'autre, et que le nouveau gouvernement islamiste installé à Damas, il inquiète une bonne partie de la société syrienne, notamment sur la question des droits des femmes et des minorités. Et la gauche arabo-kurde qui résiste actuellement aux attaques armées des milices racistes inféodées à Erdogan, elle doit avoir plus que jamais son mot à dire sur l'avenir de la Syrie. Et cette manifestation, c'est aussi une façon de leur apporter notre soutien. C'est pour ça que plusieurs organisations internationales, dont l'UCL, ont consigné un appel à participer à cette manifestation dans un bloc noir et rouge. Pour dénoncer le fascisme, pour la justice, pour réclamer une réponse internationaliste, et puis pour rappeler que le 9 janvier 2013 et le 23 décembre 2022, deux attentats avaient frappé le cœur de Paris. À deux reprises, trois militants et militantes kurdes avaient été brutalement assassinés. Le 9 janvier 2013, c'est Sakin Sensiz, Fidan Dogan et Leia Salemez qui avaient été victimes d'un triple féminicide commis par un agent infiltré des services secrets turcs. Et pendant dix ans plus tard, c'était trois autres militants, Evin, Mir et Abdurrahman, qui avaient été assassinés au centre culturel kurde Ahmed Kaya à Paris. C'était bien sûr des militants extrêmement importants du PKK, du Parti des Travailleurs du Kurdistan, et on sait pertinemment que derrière ces deux attentats avait plané l'ombre de l'État fasciste turc qui, via ses services secrets, avait agi. Plusieurs enquêtes journalistiques avaient d'ailleurs dénoncé la responsabilité du mythe, les services secrets turcs, dans le triple féminicide de 2013, et des nombreux éléments avaient porté à croire à une implication à minima incitée spectatrice dans l'attentat de 2022. Et puis depuis, plusieurs autres tentatives d'assassinat ou actions planifiées par le MIST ont visé des journalistes, des militants, des politiciens, dont des anciens députés kurdes ou des opposants turcs en exil sur le sol européen et qui heureusement ont été déjoués. C'est bien sûr des actions d'intimidation qui ont lieu avec la complaisance des États impérialistes occidentaux et de son côté justement l'État français lui continue sa collaboration avec la Turquie en maintenant notamment ses relations commerciales et économiques avec ce pays, en fournissant des armes et des équipements à l'armée turque, et ce malgré les violations par exemple flagrantes des droits humains dans le pays et les zones qu'il occupe en Syrie. On sait que le régime turc il continue en effet à réprimer chaque voie de contestation, vole les mairies kurdes, emprisonne à tout va et impose l'isolement à de très nombreux prisonniers politiques. C'est le cas par exemple d'Abdullah Öcalan qui a été emprisonné depuis 1999 sur une île prison. Mais c'est des pratiques inhumaines qui relèvent de la torture, qui n'ont jamais été condamnées par la France, qui d'ailleurs, on peut le rappeler, elle aussi a emprisonné Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais pour la cause palestinienne depuis 1984, alors qu'il est libérable depuis 20 ans. En tout cas, cette collaboration de la France, elle se fait en dépit de multiples violations internationales et des crimes de guerre qui sont commis par la Turquie via ses bombardements et frappes de drones en Irak et en Syrie. Des bombardements qui visent non seulement les bases de la guérilla du PKK, qui exerce pourtant son droit légitime de résistance armée face au colonialisme, mais aussi des bombardements qui visent de multiples infrastructures et habitations civiles. Des dizaines de villages qui ont été évacués de force par l'armée kurde, turque, dans sa tentative d'invasion des montagnes du Kurdistan du sud de l'Irak. Tandis qu'au Rojava, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été laissées sans accès à l'électricité, au chauffage ou au gaz de cuisson suite aux destructions d'infrastructures énergétiques. Et cette collaboration de la France ne nous étonne pas du tout, puisque cette complicité avec le génocide en cours à Gaza, par exemple, a détruit toute crédibilité du pays en matière de respect des droits humains et nous montre du coup le vrai visage de l'impérialisme. L'impérialisme, il est prêt à sacrifier des peuples entiers et les règles qu'il a lui-même fixées dans la défense de ses alliés et de ses intérêts sont bien souvent prioritaires, et que face à cette unité des États impérialistes, il est pourtant impératif aujourd'hui de construire une lutte internationale et antifasciste. Et c'est donc pour cette raison que on peut inviter toutes les forces politiques, syndicales, associatives à se mobiliser. Donc ce samedi 11 janvier 2025 à Paris, aux côtés des forces progressistes kurdes, pour construire un bloc internationaliste lors donc de cette manifestation pour les 6 camarades kurdes assassinés à Paris, pour réclamer que vive la résistance du peuple kurde, du peuple palestinien et de tout et toutes les opprimées. C'est le mot d'ordre donc qui sera affirmé et auquel l'Union communiste libertaire participera donc ce samedi à Paris à 11h à la gare du Nord pour cette grande marche qui se rendra ensuite place de la République pour un meeting. Et puis on vous rappelle aussi pour terminer cette émission qu'à Lyon, ça sera 14h30 place Bellecour, manifestation pour dire stop au massacre en Palestine, manifestation à l'appel du collectif 69 de soutien et de défense du peuple palestinien. Voilà, c'est avec c'est le rappel de ces informations qu'on voulait terminer cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, du groupe local de l'UCL. On vous donne rendez-vous mercredi prochain, 20h-21h comme tous les mercredis sur ce 102.2 de Radio Canu. Ça sera certainement l'autre équipe d'Idées Noires qui sera à l'antenne. Et puis moi, je vous retrouve juste après notre générique pour l'émission La bande son de nos révoltes.
cœur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des